Hier, sur son Facebook, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, dont la fille Julie a été assassinée par un récidiviste qui était en libération, a écrit vraiment un témoignage touchant, mais surtout l'aberration de la situation dont on va maintenant discuter. En fait, Pierre-Hugues Boisvenu revenait sur le meurtre de cette jeune femme dans un hôtel de Québec mercredi dernier et il pointait du doigt le fait que l'homme accusé de ce meurtre avait déjà été reconnu coupable de meurtre auparavant, en octobre 2004, pour l'assassinat de sa conjointe. Cet homme-là avait reconnu avoir tué sa conjointe à coups de marteau. Après, dans son élan de violence, il avait ensuite pris deux couteaux de cuisine pour poignarder sa femme à deux mains. Il avait 38 ans à l'époque, cet homme-là. Il a pris 15 ans. En théorie, il ne devait pas sortir de prison parce que c'est une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Il y a quelque chose de cocasse dans le fait de le dire de même. T'sais, peine de prison à vie, 15 ans. Puis au bout de 12 ans, de ce que je comprends, on lui permet, parce qu'on estime finalement qu'il représente un risque modéré. Qui est vraiment apte à mesurer les risques de ces meurtriers-là quand il y a des élans de violence aussi sauvages que ça? Difficile quand même, il me semble. Et là, bon, on lui a permis de sortir parce qu'on estimait qu'il y avait des besoins sexuels puis que c'était normal de lui permettre de les assouvir. Donc, il s'en est pris à une autre victime, Marilyn Lévesque, qui elle avait 22 ans et qui a été assassinée dans un hôtel de Québec. Avec nous, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour.
Bonjour à tous les gens qui nous écoutent ce matin et encore une fois, toutes mes sympathies à la famille.
Pierre-Hugues Boisvenu, évidemment, c'est l'histoire de Julie qui se répète.
Oui, et vous savez, ce que je veux vous dire, là, c'est pas juste moi qui le dis, c'est le vérificateur général qui a fait un rapport en 2018 et qui disait que lorsqu'on libère ces gens-là, le risque est mal calculé, la surveillance en collectivité est déficiente, les données sur le taux de récidive sont fausses. Et on agit comme, lorsqu'on prend, vous parlez du risque modéré, on calcule à peu près le même niveau de risque, que ce soit un voleur, que ce soit un violeur ou un tueur. C'est inadmissible. Et je suis convaincu, et c'est pour ça que je demande une enquête publique du ministre Blais dans ce dossier-là, je suis convaincu que c'est un cas où on n'a pas calculé de façon correcte le niveau de risque. Moi, j'ai bien hâte de savoir si ce gars-là a été évalué par un psychiatre avant de sortir de prison, parce que ça m'apparaît être un individu qui souffre de psychose, quelque chose, parce que on ne peut pas tuer une femme et deux heures après se livrer aux policiers en disant « j'ai tué une femme ». Ce n'est pas un meurtre au deuxième degré, ce n'est pas un meurtre, c'est un meurtre prémédité. Et j'en veux un peu à la justice d'avoir donné à cet individu-là 15 ans, et j'en veux surtout au système carcéral, au système de libération conditionnelle, d'avoir un système de justice à deux vitesses. Je pense que les juges donnent souvent des sentences qui sont acceptables, mais le problème, c'est qu'il y a un autre système de justice qui passe après le juge et qui décide, de dire, ben nous, on va le libérer avant fin. Parce que le juge avait dit 15 ans, ouais, sans possibilité de libération.
Et c'est pour ça que, Pierre-Hugues Boisvenu, vous me permettrez de présenter l'avocat criminaliste Maître Walid Ijazi. Oui. Bonjour Walid.
Bonjour.
On voulait vous parler ce matin parce que, pouvez-vous nous expliquer ça, la question que Pierre-Hugues Boisvenu pose et que je me pose et que tout le monde se demande ce matin comment ça se peut qu'un gars qui a eu 15 ans ferme, en tout cas sans possibilité de libération conditionnelle, se retrouve dehors avant la fin de sa sentence. Y a-t-il quelque chose qu'on doit comprendre de ça?
Je parle en termes généraux, je parle pas du cas spécifique de cette triste histoire quand même parce que je connais pas les détails particuliers à lui, mais l'idée de façon générale dans la presse c'est qu'on veut préparer à la libération conditionnelle en fait. Alors, dans le cas de quelqu'un qui a une peine d'emprisonnement à perpétuité parce qu'il a commis un crime grave, un meurtre, un homicide, il y a une période de détention ferme qu'il doit faire. Alors, dans le cas ici, la libération conditionnelle, c'était à 15 ans. Trois ans avant la date de la libération conditionnelle, il est possible pour un détenu, et c'est pas un automatisme, il fait la demande, il cherche à obtenir ou bien des sorties avec escorte ou pas d'escorte, et dans les trois ans avant la date de la libération, alors ici, c'était après 12 ans, puisque la libération conditionnelle, c'était à 15, obtenir une semi-liberté. Alors, l'idée d'une semi-liberté, c'est que on permet aux détenus de sortir du pénitencier pour vaquer à des occupations, question d'intégrer graduellement, retourner progressivement à la vie en société, en autant qu'ils reviennent dormir ou bien à l'établissement carcéral ou en maison de transition. C'est pas quelque chose qui se fait à la légère. C'est quelque chose qui est généralement très surveillé et encadré, mais ici, malheureusement, c'est une triste affaire.
Bien, ici, puis dans d'autres cas, parce que c'est pas les seuls cas, puis là, on dit l'équipe de gestion du cas, ce qu'on a fait... Le EGC, là, ça s'appelle comme ça, l'équipe de gestion de cas, ils ont d'abord évalué qu'il représentait un risque élevé de violence envers une partenaire. Et finalement, une couple d'années plus tard, ils ont revisé ce risque-là, puis ils ont dit, ben finalement, non, ça semble être modéré. Je veux dire, c'est pas une science. Faible à modérer.
C'est pas un détail, là. Faible à modérer, pas modéré. C'est pas quelque chose qui se fait à la légère, là. C'est des professionnels compétents, sérieux, qui essayent d'évaluer la situation.
Mais oui, mais Walid, visiblement, c'est pas une science exacte, hein? Visiblement.
C'est clair.
OK, fait qu'on on peut-tu dire qu'ils se sont trompés?
Ici, oui.
Ben oui, c'est ça.
Ben
oui, Pierre-Hugues, oui.
En même temps, je dis
j'inviterais Walid à lire le rapport du vérificateur général du Canada de 2018. Lorsqu'il est dans deux phrases, risque mal calculé dans beaucoup de cas et surveillance déficiente dans la collectivité. C'est pas moi qui le dis, là. C'est le vérificateur général. Donc, ça m'apparaît évident qu'il faut une enquête publique dans ce dossier-là. Et deuxièmement, ça prend absolument une évaluation indépendante des programmes de réhabilitation qui s'adressent à ces criminels-là et non une évaluation interne. Il n'y a jamais eu dans le système carcéral canadien une évaluation externe, indépendante des mesures de réhabilitation qui s'adressent à ces gens-là.
Ouais.
Parce que ça m'apparaît à toute fin que dans ce cas-là, comme dans d'autres cas, on échoue totalement.
On va s'arrêter ici. Oui, Walid, très rapidement avant la pause parce qu'on doit y aller, oui.
Ben, c'est pas un désaccord. Juste dire, le système, il est fondamentalement fait pour la protection du public. Mais bon, ici, on a un cas qui nous amène à réfléchir sur la situation, c'est sûr.
Ben oui, mais c'est ça qu'on dit. Là. Il y a plus qu'un cas. Si ce n'était qu'un cas, on pourrait dire que c'est vraiment... Oui, exactement. On va à la pause, on revient tout de suite. Évidemment, il y a des auditeurs qui vont vouloir réagir à ça. Est-ce que vous comprenez, vous, qu'un gars qui a tué sa femme, il va en prison, 15 ans, ferme, tu peux pas sortir, là, soudainement, quelqu'un dit de risque élevé de violence, on évalue faible à modéré une couple d'années plus tard. On l'avait mal évalué, le risque, parce qu'il se trouve que ce gars-là est aujourd'hui accusé à nouveau d'un autre crime, d'une autre femme. Une jeune femme de 22 ans retrouvée morte à Québec la semaine dernière. 514-790-9850. Dites-moi ce qui n'a pas marché dans notre système. À tout de suite. Un meurtrier qui a tué sa femme s'est retrouvé en liberté et en a tué une autre. On se demande pourquoi le système a permis à ce gars-là d'être dehors. Il y a bien des affaires qu'on comprend pas. Puis de ce qu'on peut lire dans les journaux, on a compris que ce gars-là, dès 2016, a pu reprendre graduellement sa liberté dans le cadre de sorties supervisées où on lui permettait d'avoir... de répondre à des activités qui répondaient à ses besoins sexuels. Et même son agente de libération conditionnelle avait développé avec lui... Une stratégie, c'est même qu'on appelle ça, une stratégie pour qu'il rencontre des femmes pour répondre à ses besoins sexuels. Moi, sincèrement, les bras mentent. Je ne sais pas comment ça se fait que quelqu'un, une agente de libération conditionnelle, peut développer une stratégie pour permettre à un meurtrier d'assouvir ses besoins sexuels. Il y a des gens qui m'écrivent puis qui me disent « Voyons donc, c'est-tu un besoin de premier plan, ça, d'assouvir ses besoins sexuels quand tu as été trouvé coupable du meurtre de ta conjointe. » On a avec nous Gabriel. Bonjour, Gabriel.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je suis scandalisé parce que on dirait que les peines de prison sont facultatives. Le gars a été condamné à prison à vie sans possibilité de libération pour 15 ans, puis il sort au bout de 12 ans. Il a commis un meurtre sordide. Moi, je suis en train de penser qu'on devrait ramener la peine de mort au Canada pour les cas lourds comme ça.
Merci beaucoup. Natacha, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Natacha.
Mon commentaire, en fait, c'est... on écoute... C'est sûr que c'est de la télévision, là, sauf que Unité 9, quand les femmes sortaient, ils étaient accompagnés les premières fois. Est-ce que ça se fait ici au Québec, accompagner les détenus quand ils sortent pour des sorties comme ça? S'ils auraient été accompagnés, lui, ça, c'est sûr que ça ne serait pas arrivé.
Oui, mais je comprends. Natacha, oui, merci beaucoup. Benoît est avec nous. Bonjour, Benoît.
Bonjour, Isabelle, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Good. Écoute, moi, je trouve ça complètement aberrant de voir un malade mental pouvoir non seulement sortir sans être supervisé, mais en plus d'être encouragé par son agent de libération à rencontrer des femmes, des jeunes femmes, je sais pas là, d'où ils viennent, et ça me... Écoute, moi, j'ai une fille de 25 ans, et il faudrait vraiment pas que je sache qu'elle fait partie d'un programme de la sorte. Je sais pas, je flippe des bananes, là, je m'excuse, mais c'est complètement débile. Écoute, c'est pas un voleur de char, ce gars-là, tabarouette, c'est un tueur.
Ouais. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Ouais, je comprends votre étonnement et votre frustration. Marco, vous avez une histoire en plus, racontez-nous rapidement.
Oui, mon père était victime en 79, le 19 octobre 79.
Ouais.
Puis le meurtrier, ça s'est passé dans un bar. Fait qu'il y a des clients qui étaient là puis qui l'ont vu. Moi, je suis vraiment pour la peine de mort. Puis même pour des abuseurs comme ça, lui, il a tué sa femme à coups de marteau. Puis en plus, c'est passé. Il va avec les couteaux. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Les juges, là, ça devrait être ceux qui sont de la famille. Eux autres seraient bons juges au lieu d'avoir du monde qui sont pas vraiment atteints par ce... ces crèmes-là.
Merci beaucoup, Marco. Je me retourne vers mes invités. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur dont la fille Julie a été assassinée, c'était en 2002, si je ne me trompe pas, hein, Pierre-Hugues?
Oui, ça va faire un 20. Récidiviste, exactement.
Oh, exactement, récidiviste, c'est quasiment la même histoire. Et ouais. Walid Ijazi, qui est avocat criminaliste avec nous. Bon, Walid, vous me permettrez, Pierre-Hugues, je vais demander à notre criminaliste peut-être d'expliquer. Ouais. On parlait de superviser, sortie supervisée. Il y a ça, bien sûr, certains auditeurs ont dit comment se fait que ce gars-là est sorti seul, sans être supervisé. Mais bon, il y a toute la question aussi de la stratégie discutée avec l'agent de libération conditionnelle. Oui. On disait tout à l'heure, il y a eu une mauvaise évaluation du risque, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça dans cette histoire-là. On dirait qu'il y a tout un système qui s'est donné la main là, pour en arriver au meurtre de cette autre jeune femme de 22 ans la semaine dernière.
Bon, enfin, attention, je n'irai pas aussi loin que ça. Là. C'est un système qui est fondamentalement fait pour la protection du public. Alors rapidement, l'idée, c'est qu'on...
La protection de qui? Tu dis, Walid, j'ai pas compris.
Du public. L'idée, c'est qu'on ne relâche pas quelqu'un du jour au lendemain sans supervision. On cherche à le réintégrer progressivement à la société. Alors, les sorties, au départ, naturellement, nécessairement, obligatoirement, elles sont supervisées et on encadre la personne parce que si on le relâche à la dernière seconde de sa peine, ça ne fera pas un bon citoyen. On cherche à le préparer, à revivre en public, à recomposer avec des êtres humains en société. Ça, c'est pour ma protection à moi, pour tout le monde. Ici, il y a une mauvaise évaluation du risque. On en convient. Pourquoi c'est problématique, c'est délicat, ça amène à la réflexion. Mais l'alternative, c'est quoi? C'est d'abolir la libération conditionnelle. Je pense pas que la protection du public sera mieux servie si on relâche sans avoir préparé à l'avance quelqu'un comme un animal en société.
Mais puis là-dessus, au Québec, on est beaucoup dans la réintégration, puis c'est correct, je pense, dans la majorité des cas. Mais en même temps, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on peut convenir qu'il y a de certaines personnes qu'on ne pourra jamais réhabiliter? On dirait qu'on a de la misère au Québec en arriver à cette conclusion, que ça nous arrache le cœur de devoir conclure ça. Puis c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Puis probablement que ça touche peut-être 1% des meurtriers. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des gars, Pierre-Hugues Boisvenu, qui ne soient jamais réhabilitables? Est-ce qu'on peut convenir de ça?
50%. Et ce que je dirais...
Ça, c'est peut-être trop, là, une personne sur deux, mais...
C'est à peu près ça. Actuellement, les gens qui ont une sentence à vie en prison...
10 secondes, Pierre-Hugues.
On en libère à peu près 50%. Ce que je veux vous dire, c'est qu'entre 2008 et 2015, on avait embauché des commissaires de libération conditionnelle qui avaient un background compétent. Depuis 2015, on a tout congédié ces commissaires-là pour embaucher des amis.
Merci beaucoup.